Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Cop Gone avec Edouard Jay, comme tous les lundis. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Correspondant à RMC Sport dans la région et nos invités chroniqueurs ce soir, Ghislain Anselmini, bonsoir.
Bonsoir Hugo, bonsoir messieurs.
Et Charles Di Folco.
Et bonsoir tout le monde.
Toujours au rendez-vous messieurs, et donc on va revenir tout de suite sur cette défaite et ce match à deux visages. On y reviendra avec une première mi-temps à sens unique, malheureusement dans le mauvais sens, avec, regardez les buts, l'ancien Lyonnais Martin Terrier d'une frappe du gauche qui ouvre le score, Désiré Doué là d'un missile qui double la mise, et puis Martin Terrier qui corse l'addition sur une sorte de cafouillage dans la surface. 3-0 donc avant la mi-temps, avant une réaction Henrique d'abord, voilà, sur une belle frappe, et puis Alexandre Lacazette, mais c'est trop tard, 3-2. Voilà, Alexandre Lacazette, vous voyez ce but, 3-2 donc pour les Rennais. Et on va écouter tout de suite Pierre Sage qui s'est excusé auprès des supporters donc après le match.
J'ai envie de m'excuser auprès d'eux par rapport à la première mi-temps que nous avons livrée. Elle n'est pas digne de ce qu'est l'Olympique Lyonnais et ce qu'est l'Olympique Lyonnais dans notre situation. Les sifflets de la première mi-temps sont complètement mérités. J'avais à titre personnel, mais je pense que l'ensemble des joueurs avaient honte à la mi-temps. Et avant de relever le score, c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire, c'était un problème d'amour propre déjà. Et on se devait de faire une mi-temps digne d'une équipe qui est dans notre situation et digne du club qu'on doit être et pas du club qu'on pense être.
Bon Edouard, il y a des excuses, mais j'ai une question d'abord toute bête avant de revenir sur ce match. Est-ce qu'on est condamné à souffrir toute la saison?
Ah ben je le dis depuis le 15 août, donc on est à la moitié. Je faisais partie de ceux qui, après les trois victoires avant Noël, ne croyaient pas justement au Père Noël.
L'embellie de Noël,
fallait faire très très attention, parce que ça permettait... Voilà. J'avais peur justement que ça... Alors c'était très bien juste avant Noël, ça sortait tout le monde de la tête de l'eau. Sur les 16 premières journées, Lyon était 11 fois dernier. Juste avant Noël, pour le réveillon, ça faisait pour les supporters lyonnais, ça faisait un petit peu plus léger. Mais j'avais peur après d'une déconcentration. C'est bon, on a fait le plus dur, parce que c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Alors de la part des supporters, d'un certain nombre de, et mes confrères à Paris, c'est bon, t'affoles pas. Voilà, dans les vœux de Noël, c'est bon, t'as.
Clairement, les Lorient sont derrière.
Voilà. Et je leur disais non, faut faire très très attention parce que. Le contenu, les résultats étaient un petit peu trompeurs quand même par rapport au contenu. On pouvait dire que ça équilibrait par rapport à un certain nombre de choses. Mais voilà, le contenu, quelque part, c'est le même que ce qu'on a là. Pareil. Sauf que là, c'est des défaites.
Là, il y a des défaites. Justement, le contenu sur ce match.
Sur ce match-là, rien, que dalle. Maintenant, j'entends Pierre qui s'excuse par rapport à la mi-temps. Oui, après, pour moi, la seconde mi-temps, elle est perdue. Oui, il y a eu une réaction d'orgueil, bien évidemment. T'es au Groupama, t'es l'Olympique Lyonnais, t'en as pris 3, mais c'était trop tard. La preuve, c'est qu'ils sont remis à 3-2, il restait 20 minutes avec les arrêts de jeu, et il n'y a rien eu après, quoi.
Mais justement, sur cette première mi-temps, parce que, bon, en prendre 3, c'est déjà une chose qui n'est pas extraordinaire, mais avoir aussi peu de réactions, quand même.
Oui.
Parce que c'est ça, pas ça le pire.
Encore une fois, Edouard a entièrement raison quand il parle de difficultés. On n'a jamais été relégable, où on est descendu depuis 20, 30 ans, depuis les années 80, je crois bien.
40 ans.
Et on n'est pas habitué. Nous, à notre génération, on était moins bons, je le dis souvent ici, moins bons, mais au moins on luttait. Maintenant, est-ce qu'ils ont envie de lutter?
On voit le classement, là, ce dont on parlait. Donc voilà, juste un point devant Clermont, 3 points devant Lorient.
On peut remercier Le Havre hier qui réalise la 90-10 face à Lorient,
face
sinon
à Lorient
était encore plus près. Donc ça va vraiment se jouer à très très peu de choses. Et puis il y a ce fameux goal average, mine de rien, qui est quand même assez catastrophique en fait.
14 buts. Donc,
14 buts d'écart.
De différence. Charles, est-ce que tu as l'impression que l'OL a replongé vraiment dans ces travers-là? Ou est-ce que l'embellie de Noël, c'était aussi, il y avait peut-être aussi ce côté chance qui était revenu et qui là est reparti?
Moi j'avais de l'espoir après le match de Monaco où je trouve qu'on avait vu...
Vous êtes sérieux?
Non, mais on avait vu des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant. Il y avait plus d'envie, etc. Maintenant, oui, sur le match de vendredi, c'est quand même compliqué. Je veux dire, les 20 premières minutes, il ne se passe rien ni d'un côté ni de l'autre. Après, on prend un premier but, un deuxième, et il n'y a pas de réaction tout de suite. Et Non, c'est compliqué. Ça va se jouer, je pense, sur des détails. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de l'année, on n'a pas grand-chose en notre faveur non plus dans le jeu, dans le contenu, dans rien du tout, quoi. Donc ça va être compliqué. Ouais. Après, il n'y a que un ou deux points pour être 12 ou 13e, donc c'est pas non plus catastrophique. Mmh. Mais
il y a aussi un ou trois points pour être dernier. Donc bon.
Verre à moitié plein ou à moitié vide. Après, ça, c'est selon. Mais non, c'est
Après, le problème, c'est que Rennes ne m'a pas impressionné.
Mais est-ce que c'est pas ça aussi le problème?
Alors, il y a 0-3 à la mi-temps. J'imagine que pour ceux qui ne regardent pas le match dans le détail, tu vois 0-3 à la mi-temps, tu te dis il y en a une qui s'est baladée. Mais non.
Il y aurait pu avoir plus, hein, parce qu'il y a eu des occasions aussi.
Oui. Alors, c'est vraiment bizarre. Et puis, il y a 3-2 à la 77e minute.
Il y avait la place.
Disait Gislain, il reste presque 20 minutes en comptant le temps additionnel.
Il faut emballer.
Et il n'y a pas eu d'emballement à ce moment-là. Alors, c'est là que c'est vraiment inquiétant. Franchement, jusqu'au bout, ça va se jouer vraiment. En sachant que tu vas aller à Montpellier.
Réception de Marseille la semaine prochaine.
Oui, mais dans les adversaires directs.
Ah oui, dans les adversaires directs.
Tu vas tous chez eux, sauf Strasbourg.
Voilà. À Clermont.
Ouais. À Clermont, voilà. Donc, comme le disait Gislain, je ne sais pas si ils sont bien habitués à ces places de dernier et à lutter pour le maintien. Je voyais le Loup, quand je faisais le match samedi, les joueurs disaient, je ne sais pas si on a la mentalité aussi pour se maintenir, parce qu'il y a aussi cette question au niveau du rugby, comme quoi c'est vraiment ancré dans les têtes. Il y a deux niveaux de mental.
C'est pas le même football. Quand tu joues l'Europe ou quand tu joues le maintien, c'est pas.
Mais justement, parce que Corentin Tolisso, qui est un peu l'exemple de tout ça, je trouve, il a dit au micro du diffuseur qu'ils avaient honte à la mi-temps, un peu comme a dit Pierre Sage. Mais je trouve que ça s'est pas vu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça s'est pas vu sur le terrain qu'ils avaient honte. Parce qu'il y avait 1, 2, 3-0 et puis il y avait pas de réaction.
Après, il y a une réaction sur la seconde mi-temps, même si je reviens, je pense que
avec des changements, on va y revenir. Mais...
Voilà, mais avec des changements, donc le staff a fait des choses bien. Par rapport à la seconde mi-temps. Mais encore une fois, je pense que Rennes était vraiment, vraiment dans la gestion. Mmh. Voilà, j'ai vu le match deux fois et c'est vraiment. Ils n'ont pas été cherchés comme ils ont fait en première mi-temps, 3-0, ils voulaient coincher.
Mais voilà. Est-ce qu'il y a eu deux visages finalement? Parce que donc, il y a eu cette première mi-temps catastrophique et puis il y a eu la réaction en deuxième.
Moi, j'y crois pas. Alors, en effet, il y a eu une réaction, parce que je n'ai pas dit, hein, mais moi, c'est quelque chose où tu es mené 3-0 à la mi-temps. Il va voir l'exemple de Montpellier l'an passé, voilà, mais il y avait le public
la
avec.
Remontée,
il y
a la remontée de 15 à 5-4.
C'est une fois tous les 15-20 ans.
Oui. Oui, et puis en plus, il n'y a pas forcément d'enjeu. Est-ce qu'il y a eu deux visages, Edouard, sur ce match ou pas?
Oui, alors sur le terrain, oui, il y a eu deux visages. Mais est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est de l'inconscient? Est-ce qu'il y a cette donnée que peut-être un peu des joueurs se sont dit, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a eu trois victoires à Noël, on est sorti de la dernière place. Les autres sont moins bons, parce que c'est vrai que Lorient et Clermont affichaient avant Noël des statistiques impressionnantes. Pire que l'OL, c'est dire. Si
c'est ouais, voilà. C'est dire. Ouais.
Mais voilà, le problème, c'est que il y a eu Lorient, il y a eu Le Havre. Là, tu as
la défaite, toi.
Rennes. Donc quelque part déjà en deux matchs, pas comptablement, mais au moins déjà comptable, une partie comptable et une partie mentale. Tu as effacé tout ce que tu as fait de bien avant Noël. Et ça, il va falloir
et puis on prend trop le but.
Remettre le métier sur l'ouvrage.
On prend trop le but.
Et puis tu as Marseille dimanche aussi. Hein.
Oui, mais que dimanche, ce soit Marseille, Lorient...
C'est pas un match facile pour se relancer. Alors, est-ce que c'est le match idéal? Parce que c'est un gros... C'est une équipe européenne, peut-être. Mais t'en reprends encore deux ou trois contre Marseille. Déjà, je pense que tu reviens pas au score comme au match aller. Et c'est pas, pour moi, c'est pas le match le plus facile pour se relancer. Ouais. Donc... selon ce que ça va faire derrière, on peut aussi se retrouver 17 ou 18e.
Ah oui, là, ça peut, le week-end prochain, ça peut être compliqué. Sur cette deuxième mi-temps, Charles, les entrées, quand même, on a senti qu'elles ont fait du bien.
Oui.
Et qu'il y avait des joueurs qui avaient finalement un peu déjà rien que l'envie d'être sur le terrain.
On en viendra peut-être tout à l'heure avec les tops et les flops, mais Nouama, je pense qu'il fait une bonne rentrée. Il est décisif sur le. Je crois que c'est sur le premier but qu'il est décisif. J'ai trouvé la rentrée d'Enrique plutôt très positive. J'ai trouvé quand même plutôt bon sur son couloir gauche. Après, oui, les entrées font beaucoup de bien, mais c'est des entrées à 0-3. Donc, si à chaque fois qu'il faut marquer 4 buts pour gagner un match, ça va être compliqué.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une question aussi d'état d'esprit? Parce que là, ces joueurs qui sont sur le banc, on a l'impression qu'ils ont voulu faire leur preuve en allant.
Heureusement qu'ils ont fait leur preuve et je pense qu'ils étaient dans le vestiaire. Je crois que Nouama s'est un peu entraîné à l'extérieur, mais en tout cas, ils ont dû entendre le discours.
Nouama qui revenait de la CAN.
Qui revenait de la CAN, oui. Donc, ils ont dû entendre le discours et ils ont dû se dire voilà, il faut qu'on se mette au niveau. Et puis, 3-0 à la mi-temps, quand tu es dans un scénario comme ça, je pense que tu peux obligatoirement. Quelque part, c'est facile de rentrer.
Facile.
C'est ouais, facile.
C'est presque facile.
C'est presque facile parce que d'une certaine manière, tu n'as rien à perdre. Vu ce que ça a été fait en première période, tu feras mieux, forcément mieux. Même en mettant juste un poil d'ingrédients, même si tu n'as pas, le talent de ceux qui sortent.
Après, c'est quand même problématique de se dire que c'est une équipe qui est pas capable de jouer 90 minutes complètes. Quoi.
Oui, alors après, on sait que depuis le début de saison, sur les stats, sur les données GPS, entre guillemets, on sait qu'on n'est pas bien bon. Voilà, mais encore une fois, pour moi, le football, je me répète ici, hein, c'est une question de rythme et de volonté. Après, en Ligue 1, ils ont tous la technique, la tactique, tous, pas au même niveau, tous. Par contre, si t'as pas de volonté et tu cours pas, et bah t'es 17e.
Alors après, c'est vrai que c'est une période qui est toujours difficile, le mercato, le mois de janvier, parce que tu es joueur, t'as des rumeurs qui sont là, t'as des nouveaux joueurs, par exemple par rapport à Anthony Lopez, hein, Lucas Perry qui est arrivé. Ça veut dire que dans la tête, il faut suivre, donc ça fait quand même le poids sur, je sais pas, des excuses, hein, mais ça aussi des explications, parce que derrière les footballeurs, il y a des hommes, et quand tu as tout ça sur les épaules... Tu as un club à sauver, la honte à sauver par rapport à ce 3-0. Tu sais que tu es regardé parce que tu as un mercato et donc si tu fais quelque chose de mal, hop, le directeur sportif ou l'entraîneur va dire tiens, on va peut-être prendre un tel joueur. Faut avancer hein, dans ce.
Après, psychologiquement, on a l'impression que c'est pas que depuis le mercato qu'ils sont pas très bien.
Non, mais ça peut rajouter dans une période fatalement qui est difficile, qu'en fait.
Alors, on va passer au top flop, messieurs. Bon, les tops, ça va quand même aller assez vite. Hein. Cacré, Maxence Cacré pour Edouard. Ça étonnera personne. Et Enrique pour Ghislain qui a la parole.
Enrique, oui, Enrique. J'ai hésité entre lui et Alex Lacazette. Parce que Alex est. Il est monstrueux, entre guillemets, attention, par rapport à l'état d'esprit et au niveau. Enrique, parce que voilà, il a amené sur ce côté gauche, il a marqué. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la remise. Avec lui, au moins, sur cette mi-temps-là, on a joué à 3 au lieu de jouer à 5. Après, il y avait 0-3.
Il a remplacé Malik Fofana, la recrue.
Qui n'a pas été bon, ça peut arriver. Mais voilà, il a amené cette abnégation, cette rage, cette niaque qu'il a, qu'on lui connaît. Et en plus, voilà, il a été décisif 2 fois en 22 minutes. Donc,
il avait l'envie en 30 minutes.
Voilà.
Edouard,
moi je Maxence l'ai vu, Cacré. Maxence Cacré, je l'ai vu pour la plupart du match, sauf vraiment le creux de l'OL en général. Au milieu de la première période, je l'ai vu omniprésent, bon dans la gestion, son côté un petit peu chef d'orchestre, de dire là, voilà, il était là physiquement, il était là sur les ballons, il coupait les trajectoires. Je l'ai vu beaucoup avec les mains dire à un tel se replacer. Voilà, j'ai senti que quand lui allait bien, le groupe allait bien. Et en fait, quand il a baissé ou quand le groupe a baissé, bah lui aussi a baissé. Malheureusement, il n'a pas porté à ce moment-là, c'est peut-être le seul bémol. Mais voilà, il est omniprésent en sachant
et on en prend 3.
Que c'est c'est un petit top aussi, hein, parce que.
Oui, c'est un top à la hauteur du match.
J'ai gagné.
C'est quand même Enrique.
Attends, laisse-moi finir.
Charles, Enrique ou Cacré? Enrique, qui je précise, a quand même célébré son but en glissant sur les genoux à 3-0. Ça a quand même fait un peu de.
Bah, c'est son premier but avec l'OL.
Oui, voilà. Ça fait toujours un peu sourire, quoi.
L'OL
qui était assez étonné, d'ailleurs.
Enrique, clairement, parce qu'on en a discuté il y a 3 minutes. J'ai trouvé quand même plutôt bon sur son entrée et je trouve que le système en 3-5-2, 5-3-2 lui correspond plutôt pas mal par rapport à une défense
un peu en piston là.
Et je trouve aussi que c'est un joueur qui est assez sous-estimé, sous-coté à Lyon. Et pour ma part, je trouve que quand il rentre, il est quand même plutôt pas mauvais dans l'ensemble de ses matchs. Et en plus de ça, il était décisif, il nous permet de se relancer. Donc Enrique
d'espérer. Pour
le d'espérer. Donc Enrique pour le top.
Donc Enrique. Merci. Alors les flops, parce que là il y a quand même plus à dire. Tolisso, Corentin Tolisso pour Edouard, et un duo Ryan Cherki Pierre Sage pour Charles, qui va commencer sur ce duo chacun leur tour.
Non, Pierre Sage déjà, parce que bon, c'est compliqué de lui taper dessus, il vient d'arriver aussi, mais pourquoi j'ai parlé de lui, c'est surtout par rapport à sa compo de départ que j'ai trouvé pas forcément très cohérente avec Fofana d'un côté et l'anglais de l'autre.
Maitland Niles.
Voilà, et il a redécoupé encore son milieu de terrain, il a joué en losange, il l'a dit aussi après. Alors après, en deuxième mi-temps, il s'est réadapté, donc voilà, mais le mal était fait. Et Cherki, je me pose quand même beaucoup de questions depuis un moment. J'ai trouvé qu'il était de partout et nulle part à la fois. Il perd un ballon comme à Marseille sur l'ouverture du score, qui nous coûte cher, parce que ce but nous fait très très mal au final. Donc, ouais, un duo. Mais je mettrais quand même plus Cherki si je devais en sortir un.
Plutôt Cherki. Ouais. Corentin Tolisso.
Malheureusement, j'aurais pu mettre Dejan Lovren aussi, parce que mine de rien, on les sent dans le combat, on les sent volontaires, on sent que la tête veut tout faire pour sauver un club qui leur tient à cœur, qui lui tient à cœur pour lui, mais pour Dejan Lovren, pareil. Quelle est la question ? Est-ce que les jambes suivent ? Et je crois qu'on a la réponse sur le terrain. Malheureusement, les jambes ne suivent pas. J'ai vu beaucoup de passes poussives, j'ai vu beaucoup de court physiquement. Ouais, ça me fait peine de le mettre à ce niveau-là. Mais je crois que malheureusement, pour moi, c'est un symbole aussi de quelqu'un qui veut, mais qui ne peut plus.
Bon, l'arrivée de Nemanja Matić va peut-être changer la donne.
Et par, justement, par rapport à l'aspect psychologique pour certains aussi,
typiquement, là,
ça peut aussi... voilà, on dit qu'on va mettre tel milieu de terrain. Donc là aussi, ça joue et ça fait un poids énorme.
Ça, c'est sûr. Gislain, plutôt...
Ouais, alors j'ai beaucoup d'affection pour Coco et Ryan et Pierre, pour les trois. Après, je reconnais que Ryan, il en fait toujours trop. Ça fait des années qu'on lui dit.
Qu'est-ce qui va pas avec Ryan Cherki ?
C'est sympa de donner le point, quoi, en fait.
Attends, si, je peux donner le point.
Ah bon ?
Edouard, il va finir avec un 0 pointé.
C'est vrai qu'il en fait beaucoup trop. Il a encore ce petit temps de retard sur les transitions d'EF. Voilà, pourquoi ? Parce que depuis tout petit, il a été habitué à faire la différence. Et comme on lui a dit, nous, à l'époque, quand on le côtoyait, attention, quand tu vas aller là-haut, le niveau, ça va se niveler, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Et Coco, oui, Coco, encore une fois, par rapport au classement, par rapport au rythme. Oui, tu parles beaucoup du rythme ici depuis le mois d'août. C'est vrai que Corentin, il en manque de rythme. Ouais. Donc je donne le point à Edouard.
Bon, merci. Allez, bah voilà, un point pour Edouard. Donc on a vu le classement. On va faire une petite pause et puis on se retrouve dans un instant pour parler un peu du mercato quand même. Hein. Voilà, donc pour ce débrief d'OL Rennes, on va parler un peu mercato et on va commencer par regarder ce tableau. Vous allez voir des arrivées et des départs avec donc ces arrivées, surtout le gardien Luca Perry et le défenseur Adrielson, arrivés tous deux de Botafogo. Malik Fofana, dont on parlait, provenance de la Gantoise, comme l'attaquant Gift Orban qui a joué d'ailleurs ce vendredi. Et donc l'arrivée de Nemanja Matić au milieu de terrain, en provenance de Rennes, ironie de l'histoire. Alors, il y a quand même une question. Bon, il y a des départs, mais c'est des prêts principalement, et c'est pas forcément des joueurs cadres. Gislain, il y a une question quand même qu'on peut se poser. L'équipe va mal. Il y a 5 recrues qui sont arrivées au mercato hivernal, et sur le terrain, il y en a une seule, et c'est Malik Fofana, qui a un gamin de 18 ans.
Quand même. Après, peut-être que physiquement et tactiquement, ils n'ont pas eu le temps de travailler. Déjà, Matić, il n'était pas prêt, parce que ça s'est fait au dernier moment. Et pour moi, là, concernant les arrivées, pour moi, je me dis, pour moi, il n'y a qu'une seule recrue, c'est Matić, quoi. C'est le seul qu'on connaît. À un moment, je pense qu'il faut prendre des gens qui ont une carrière, une pseudo-carrière, si vous voulez, mais des gens qu'on connaît. Il faut arrêter de miser sur les jeunes. Et qui plus est, les jeunes de Ligue 2, les jeunes qui sont, je ne sais pas où, à un moment.
Il faut arrêter avec les U12, les U13, franchement.
Il faut arrêter avec les jeunes, c'est ce que vous dites. L'OL
est... Moi, je vais prendre l'exemple, je me suis replongé dans les archives, désolé, de Saint-Etienne en 2018, qui sont exactement comme Lyon. Ils vont chercher qui au mercato de janvier ? Yann Mvila, Mathieu Debuchy, Subotic et tous les autres qui ont entre 26 et 33 ans, qui sont internationaux.
Des joueurs d'expérience.
Ils sont tout de suite arrivés. Ils avaient ce petit plus, la mentalité. Et qu'est-ce que ça a fait ? Une deuxième partie de saison incroyable. Et ils sont sauvés. Et là, ce n'est pas avec des petits jeunes.
Il faut arrêter de faire des paris, c'est ce que tu dis.
Tu ne dois pas faire des paris. Tu dois aller chercher. Matić, c'est très bien. Mais après, ça fait quand même un mois qu'il ne s'est pas entraîné. Il a 36 ans, donc il faudra voir ce que ça donne. Après ce mercato de janvier, Gislain a tout à fait raison. Comme tous les mercatos, il faut renforcer, il ne faut pas remplacer avec des U15, des U16. Non, mais franchement, là, c'est là où c'est peut-être
surtout inquiétant. Surtout en mercato hivernal, on attend des recrues qui soient prêtes directement.
Et puis, Gift Orban, on a des échos comme quoi, au niveau de sa mentalité, ce n'est pas forcément ça. Il faut arrêter de prendre
pour les Brésiliens, des risques. L'adaptation,
les Brésiliens sont en changement de continent. Ils ont arrêté le championnat le 7 décembre dernier. Il y a un moment donné... on est là, au bord du précipice. Il faut vraiment des gens, des joueurs comme Matić et d'autres.
Charles, il faut encore des recrues, là, et des gens encore d'expérience ?
Oui, clairement. Après, Matić, on connaît tous son CV, donc il n'y aura pas de souci. Après, maintenant, à voir quel joueur il va remplacer à Lyon. Est-ce que ça ne va pas aussi faire un peu de bazar en interne ? Bon, il y a un joueur que j'irais bien chercher, c'est Ludovic Blas, par exemple. Il fait peut-être partie de ces joueurs que tu cites, qui connaissent la Ligue 1, qui ont de l'expérience, qui joue très peu. Oui, il est à Rennes, donc qui joue très peu. Mais oui, des joueurs de Ligue 1, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs en Ligue 1 qui pourraient nous aider. Et on va chercher ailleurs, donc c'est pas très très cohérent, mais oui, il en faut, ouais.
J'ai ça. À quel poste il faut absolument recruter là d'ici jeudi, parce que le mercato se clôture jeudi. Hein,
je prends un def centre, mais un vrai quoi, le sur qui on peut compter.
Il y a Adrielson qui est arrivé en défenseur central de Botafogo,
mais sa famille, personne ne le connaît, donc ça c'est pas grave. Non, mais c'est ça.
Donc quelqu'un d'expérience, j'ai pour lui, là, quelqu'un d'expérience. Qui a un CV et surtout un combattant, quoi. Quelqu'un qui derrière va nous dynamiser tout ça.
Un CV d'expérience en Europe. Edouard, s'il faut un poste là aujourd'hui, c'est défenseur central. On a l'impression qu'il y a aussi le mal est plus profond presque que sur.
Après, juste c'est, franchement, poste, c'est au milieu de terrain parce qu'on n'a jamais vu un milieu de terrain aussi faible. Hein. J'ai souvent dit là que lundi matin, j'avais des rendez-vous chez l'ophtalmo pour me réparer un peu la rétine et les yeux, tellement on voyait des choses bizarres. Donc, franchement, c'est là parce qu'après, si au milieu de terrain, tu gagnes cette bataille du milieu de terrain, bah, là, quand même, mine de rien, devant, t'as Alexandre Lacazette, les Orban, Malik Fofana, même Ariane Cherki mis dans de bonnes dispositions. Voilà, il y a
on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment de relayeur en plus aujourd'hui.
Ouais, voilà, des box to box qu'on fait. Voilà, alors on a Maitland Nice qui.
Mais bon, on a Matic, a réussi c'est plus une sentinelle aussi,
qui a réussi enfin un débordement. Franchement, entre le mercato d'été l'année dernière qui est quand même complètement loupé, hein, ouais. On le voit. Là, il va falloir que ça se réussisse. Et puis là, il reste plus que 3 mois. Il reste février, mars, avril, mai. Hein.
Ah bah ça va aller vite. Et puis ouais, le classement est serré. Charles,
le souci qu'on a, c'est que Matic, qui est la vraie sentinelle, comme tu viens de le dire. Ça fait déjà 3 mercato que Laurent Blanc le demandait. Donc Blanc est parti maintenant. Mais ça fait 3 mercato et la dernière semaine du 3e mercato. Et les priorités que Blanc pointait il y a un peu plus d'un an, on est en train de les prendre maintenant. Et on est 17e. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard.
Et à 3 jours de la fin du mercato. Donc, messieurs, eh ben, on va regarder les autres résultats du week-end. C'est préparé par nos confrères d'AMC Sport.
Victoire capitale pour le Loup dans la course au maintien. À Gerland, les Lyonnais s'imposent contre Perpignan grâce notamment à Léo Berdeux. Un maître à jouer retrouvé, impérial au pied avec un 6 sur 6. Efficace dans les temps forts, les Rouges et Noirs inscrivent 3 essais par Botta, Allen et Couillou et s'imposent 36 à 24. Le Loup dépasse son adversaire au classement et sort de la zone rouge. En basket, l'ASVEL a vécu une bien belle semaine. 2 jours après leur succès à Munich, les Villeurbanais ont signé samedi une nouvelle victoire en déplacement au Mans. Dominateurs tout au long du match, les joueurs de Pierrick Poupé ont fait la différence dans le deuxième quart-temps pour mener de 17 unités à la pause. MVP du match, l'ancien manceau Youssouf Afal, auteur de 21 points et 13 rebonds. Score final 100 à 87. L'ASVEL enchaîne un 4e succès consécutif en championnat et remonte à la 2e place. Logique respectée en 8e de finale de Coupe de France féminine. L'OL, leader du championnat, est facilement venu à bout de Nantes, pensionnaire de 2e division. Une victoire 6 à 0 qui se dessine dès la 8e minute de jeu quand Vicky Béchaud ouvre le score. Mais les Fenottes manquent de réalisme et rentrent au vestiaire en menant par la plus petite des marges. Marozan lance le festival, Egerberg, puis Le Sommer par 2 fois et enfin Mbok alourdissent la marque. L'OL est qualifié pour les quarts de finale et pourra compter sur Delphine Cascarino, rentrée en jeu 8 mois après sa blessure au genou.
Voilà donc pour ce résumé des autres résultats du week-end. Merci messieurs d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci Edouard. On se voit la semaine prochaine après Marseille, le duel des Olympiques. Puis bah oubliez pas, hein, y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique Lyonnais. Allez, bonne semaine.